Formation biblique de disciples. Cours numéro 3, la stature et la nature divine. Première partie, Dieu est saint. Psaume 102, verset 19. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Il y a une réalité dont nous ne sommes pas suffisamment conscients, c'est l'élévation de Dieu dans la sainteté. Bien au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. L'apôtre Paul écrit que Dieu habite une lumière inaccessible que personne n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée 6, verset 16. Le fait que nous avons, au moyen du sang de Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance n'enlève rien à sa grandeur ni à sa sainteté. Aussi, lorsque nous l'adorons, le prions et lui rendons grâce, considérons toujours que nous nous approchons d'un Dieu très saint. Petit 1, Dieu est saint. Il proclame lui-même sa sainteté. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. La sainteté est un concept divin. Elle est la nature même de Dieu. C'est sa qualité essentielle, fondamentale. Lui seul est parfaitement saint. Ésaïe 6, verset 3 et 57, verset 15. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Si nous voulons savoir en quoi consiste la sainteté, c'est à lui qu'il faut regarder. Même si notre vision de Dieu est encore imparfaite, nous pouvons déjà acquérir la conscience du Dieu très saint en examinant ce qui en est dit dans la Bible, sa parole inspirée. Il a révélé sa sainteté à ses serviteurs les prophètes, souvent au moyen de visions, dans une lumière tellement pure et étincelante que ceux qui en étaient témoins ne pouvaient en soutenir l'éclat. Petit 2. Qu'est-ce que la sainteté? La racine hébraïque du mot sainteté ou saint a deux significations. Premièrement, être saint, selon le concept divin, signifie être séparé, comme ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 7, verset 26. Saint, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Lorsqu'il est question de personnes et de choses saintes, cela veut dire qu'elles sont séparées, mises à l'écart des choses souillées. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. La sainteté, selon cette pensée, concerne ceux et celles que Dieu sanctifie, sépare pour son service. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Être saint signifie également être pur, comme un vêtement d'une blancheur éclatante, sans aucune tache, avec toujours la pensée de séparation, l'éloignement de ce qui peut salir. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Le mot hébreu kadosh, utilisé dans l'Ancien Testament pour qualifier les personnes et les objets consacrés à Dieu, signifie pur. Le Nouveau Testament emploie le terme agios, dont la signification est séparé, consacré, mis à part, avec le sens de pur. Dieu seul est parfaitement saint et pur. Il est lumière, la lumière parfaite sans ombre ni point ténébreux. Ésaïe 6, verset 3 et 8, verset 13. Il est dépeint comme parfaitement pur, saint et majestueux, et son peuple est appelé à reconnaître sa sainteté et ses droits souverains sur lui. Un texte de l'apôtre Paul donne une idée très élevée de la sainteté de Dieu. 1 Timothée 6, verset 16. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Matthieu 17, Marc 9, verset 2. Jésus fut transfiguré devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Le Seigneur ressuscité et glorifié est apparu à Jean, se révélant dans la gloire étincelante de la sainteté divine. Dans Apocalypse 1, verset 12. Et suivant. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Ces passages de la Bible nous donnent une notion assez précise de ce que signifie être saint. C'est beaucoup plus qu'une simple mise à part pour le service de Dieu. La sainteté, dans son expression divine, c'est être séparé, éloigné, élevé au-dessus du péché d'une manière absolue, dans un état de pureté parfaite. C'est ce que Dieu est, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est vers ce but que nous sommes appelés à marcher et même à courir, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est l'objectif du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Éphésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Petit 3. Appelé à être saint. Nous comprenons bien que seul Dieu possède la perfection de la sainteté et que nous en sommes très éloignés. La révélation de la sainteté de Dieu nous fait prendre conscience de notre impureté. Le prophète Ésaïe, l'apôtre Pierre et ses compagnons, Jean lors de ses visions, etc., ont tous été saisis de crainte et du sentiment de leur indignité devant la gloire sainte de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans Ésaïe 6, verset 3, Luc 5, verset 8, Apocalypse 1, verset 17. Cependant, le Seigneur nous fait la grâce de nous approcher de lui en nous purifiant de nos souillures et en nous appelant à être participants de sa nature sainte. Ésaïe 6, verset 6. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce chardon ce charbon brûlant, et m'a dit « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté ou sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu ne change pas. Avec Israël dans l'Ancienne Alliance ou l'Église dans la Nouvelle Alliance, Dieu a toujours appelé à la sainteté ce qu'il rachète. À Israël, il a dit, dans Deutéronome 7, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Dans Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Avec l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de son Fils Jésus-Christ, Dieu a la même exigence. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non seulement il les appelle à être saints, mais il les sanctifie lui-même, il les sépare, les met à part, et cela pour deux raisons. Premièrement, c'est que ceux qu'il appelle puissent s'approcher de lui sans crainte pour se tenir dans sa présence. Deuxièmement, c'est afin de donner au monde le témoignage de ce qu'il est lui-même. Déjà, le peuple d'Israël avait pour mission d'être, pour les autres nations, le témoin de l'Éternel, seul vrai Dieu. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il en est de même pour le peuple de la Nouvelle Alliance avec Dieu, l'Église de Jésus-Christ, composée de tous ceux et celles qui, par le moyen de la foi en lui, ont été lavés et purifiés par son sang. Leur mission sur la terre, c'est d'être ses témoins par leur façon de vivre. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le fait d'être sous la grâce ne nous autorise pas à vivre dans la souillure du péché. Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La sainteté de ceux que le Seigneur a rachetés fait l'objet de nombreuses exhortations. C'est une vertu essentielle, fondamentale de la vie chrétienne, car elle marque d'une manière évidente notre appartenance à un Dieu saint. Elle est la marque distinctive de ceux qui appartiennent au Seigneur, l'évidence d'une vie nouvelle. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Cette situation provoque deux réactions de la part des non-croyants, soit la conviction de péché qui les amène à la repentance, soit la haine de ceux dont la conduite est condamnée par notre témoignage de sainteté. Jésus a dit à ses disciples que le monde le haïssait parce qu'il rendait par sa conduite le témoignage que les œuvres des hommes sont mauvaises. Jean 7, verset 7. Il ajoute qu'il en sera de même pour ceux qui le suivent. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est pourquoi la sainteté nous semble difficile à vivre, car en plus de surmonter notre tendance naturelle au péché, nous devons aussi affronter l'opposition et la haine de ceux que notre conduite condamne et exaspère. Pourtant, c'est le témoignage que Dieu nous appelle à rendre. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ce qui doit faire la vraie différence entre les disciples de Christ et les non-croyants, c'est la façon de vivre. Comprenez bien que ce que je vous dis maintenant, il est normal que des enfants de Dieu pratiquent la charité et se montrent secourables envers ceux qui souffrent ou sont dans le besoin. Cela aussi, les gens du monde le font. Ce qui doit être différent, c'est la sainteté de notre conduite, la pureté de notre vie. La sainteté est la marque des rachetés du Seigneur Jésus-Christ, du peuple de Dieu. Nous sommes appelés à être saints dans le monde, comme notre Père céleste, à l'image de Jésus notre Sauveur et selon la nature de l'Esprit de Dieu qui nous habite et nous inspire. C'est l'objectif et la volonté de Dieu et de Christ pour l'Église, c'est-à-dire pour ceux qui la composent, les saints. Le Seigneur Jésus s'est livré en sacrifice pour cela. Éphésiens 5, versets 26 et 27. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Petit 4. Être saint est une nécessité absolue. La sainteté est indispensable pour la crédibilité de notre témoignage dans le monde, mais aussi et surtout pour maintenir une bonne communion avec Dieu, notre Père céleste, avec Jésus notre Seigneur et avec le Saint-Esprit notre compagnon de route. L'apôtre Jean a écrit à ce sujet, dans 1 Jean 3, verset 19. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Un autre passage nous parle de l'importance d'avoir une bonne conscience pour nous approcher de Dieu. Dans Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons comprendre que Dieu veut un peuple saint, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ, marchent dans la sainteté. La parole d'un prophète de l'Ancien Testament est valable pour les croyants de tous les temps. Dans Psaume 93, verset 5, « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La sainteté est le seul moyen de sanctifier la présence du Seigneur dans notre vie, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 3, verset 15, Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. La seule façon de vivre la vie d'enfant de Dieu, pour lui être agréable, c'est de marcher dans la sainteté, c'est-à-dire pratiquer la justice, se conserver pur. Dieu ne peut pas accepter d'être uni avec quelque chose de souillé. 2 Corinthiens 6, verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons être clairs et cohérents. Si nous invoquons comme Père celui qui est saint, nous devons nous conduire avec respect pour lui. Si nous confessons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a rachetés, lavés de nos péchés par ses souffrances et son sang répandu, nous devons l'honorer en nous éloignant de ce qui a provoqué sa mort. Si nous proclamons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté habite en nous, nous devons sanctifier sa présence et veiller à ne pas l'attrister. Le père de Jean-Baptiste prophétisa lors de la naissance de son fils en glorifiant le Dieu d'Israël parce que la délivrance accordée permettait au peuple racheté de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Luc 1, verset 75. Le résultat de la compréhension de la grâce de Dieu envers nous, c'est la volonté de vivre différemment, de marcher en nouveauté de vie, de marcher avec Dieu dans la sainteté. Deuxième partie, Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5 dit « Dieu est lumière ». La lumière est une métaphore courante dans la Bible. Proverbe 4, verset 18 compare la justice à la lumière de l'aube. Philippiens 2, verset 15 compare les enfants de Dieu, irréprochables et purs, à des étoiles qui brillent dans le ciel. Jésus s'est servi de la lumière comme d'une image des bonnes œuvres. Matthieu 5, verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le psaume 76, verset 5, s'écrit envers Dieu « Ô Dieu, comme tu es éclatant de lumière !» dans la version Bible en verset courant. Le fait que Dieu est lumière établit un contraste naturel avec les ténèbres. Si la lumière est une métaphore de la justice et de la bonté, les ténèbres représentent le mal et le péché. 1 Jean 1, verset 6 dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Le verset 5 dit « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » À noter que le texte ne dit pas que Dieu est une lumière, mais qu'il est lumière. La lumière fait partie de son essence, de même que l'amour. 1 Jean 4, verset 8. Le message est que Dieu est totalement, entièrement et absolument saint, sans soupçon de péché, d'iniquité ou d'injustice. Si nous n'avons pas la lumière, nous ne connaissons pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu et marchent avec lui appartiennent à la lumière et marchent dans la lumière, participent à la nature divine. dans 2 Pierre 1, verset 4, ayant fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu est lumière de même que son Fils. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. C'est dans Jean 8, verset 12. Marcher, c'est progresser. On peut donc déduire que de ce verset que les chrétiens doivent grandir en sainteté et en maturité dans la foi en suivant Jésus. Voir 2 Pierre 3, verset 18. Dieu est lumière et il veut que les croyants fassent briller sa lumière en devenant chaque jour plus semblables à Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Dieu est le créateur de la lumière physique et c'est lui qui donne la lumière spirituelle par laquelle nous discernons la vérité. Cette lumière expose ce qui est caché dans les ténèbres et nous montre les choses telles qu'elles sont réellement. Marcher dans la lumière signifie connaître Dieu, comprendre la vérité et vivre une vie juste. Les croyants en Christ doivent confesser toute trace de ténèbres en eux, leurs péchés et leurs transgressions, et laisser Dieu faire briller sa lumière en eux. Les chrétiens ne peuvent rester assis sans rien faire, à regarder les autres continuer d errer dans les ténèbres du péché, sachant qu'ils sont destinés à la séparation éternelle avec Dieu. La lumière du monde veut chasser les ténèbres et faire briller sa sagesse partout. On le voit dans Ésaïe 9, verset 2, Habacuc 2, verset 14, Jean 1, verset 9. En portant au monde la lumière de l'Évangile, nous sommes bien obligés de révéler des choses que les gens préféreraient garder cachées. La lumière rend mal à l'aise ceux qui sont habitués aux ténèbres. Jean 3, verset 20. Jésus, le Fils parfait de Dieu, est la vraie lumière. Jean 1, verset 9. En tant qu'enfant adoptif de Dieu, nous devons refléter sa lumière à un monde plongé dans les ténèbres à cause du péché. Notre objectif est d'être des témoins pour les perdus, leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Acte 26, verset 18. Troisième partie, Dieu est esprit. L'enseignement que Dieu est esprit est basé sur Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. C'est Jésus qui a dit cela à une femme qui pensait qu'on ne pouvait vraiment adorer Dieu qu'en un lieu précis. Cela veut dire que Dieu le Père n'a pas de corps humain. Dieu le Fils est venu sur terre sous forme humaine. Jean 1, versets 1 et 14. Mais pas le Père. Jésus est unique en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Nombre 23, verset 19, met l'accent sur la vérité de Dieu en opposition aux mensonges des hommes mortels. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Certains se demandent pourquoi la Bible décrit parfois Dieu avec un corps. Ésaïe 59, verset 1, par exemple, parle de sa main et de son oreille. Deux Chroniques 16, verset 9, de ses yeux. Matthieu 4, verset 4, de sa bouche. Deutéronome 33, verset 27, de ses bras. Tous ces versets sont des anthropomorphismes, une manière de décrire Dieu en termes anatomiques ou émotionnels, compréhensibles par les hommes. Ces anthropomorphismes, une forme de langage figuré, n'implique pas que Dieu a réellement un corps. Dire que Dieu est esprit revient à dire que Dieu, le Père, est invisible. Colossiens 1, verset 15, appelle Dieu le Dieu invisible. 1 Timothée 1, verset 17, loue Dieu en disant au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et un seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est esprit, mais il est aussi un être vivant et personnel que nous pouvons connaître personnellement. Josué 3, verset 10 dit « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Le psaume 84, verset 3 déclare « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. » D'un point de vue philosophique, il est nécessaire que Dieu soit esprit pour être infini. De plus, s'il était limité à un corps physique, il ne serait pas omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Dieu le Père n'est pas limité aux restrictions dimensionnelles des êtres créés, mais il est présent partout en même temps. Dieu est la cause première, incréée, la puissance qui anime toute chose. Il est intéressant de constater qu'en Jean 4, verset 24, Jésus fait le lien entre la nature spirituelle de Dieu et le besoin de l'adorer en esprit et en vérité. L'idée est que, puisque Dieu est esprit, les hommes doivent l'adorer d'une manière authentique, c'est-à-dire en vérité et en esprit, avec leur âme, leur cœur, non pas en se basant sur des traditions, des rituels et des lieux physiques. Petit 1. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes 5, versets 3 à 4, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mentir au Saint-Esprit et mentir à Dieu, car le Saint-Esprit est divin. Petit 2. Le Saint-Esprit est l'Éternel des armées. Pour le vérifier, comparez les deux passages suivants qui montre que le Saint-Esprit qui parla au prophète Ésaïe n'est autre que l'Éternel des armées. Dans Actes 28, versets 25 à 27. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Or, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » C'est dans Ésaïe 6, versets 3, 8 et 10. Petit 3, le Saint-Esprit est Jéhovah. De même, le Saint-Esprit est Jéhovah selon une comparaison des textes suivants. Hébreux 3, versets 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Exode 17, verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» L'Éternel, ici en hébreu, c'est Yéhovah. Petit 4. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Petit 5. Le Saint-Esprit est le Créateur. Genèse 1, verset 1 à 2, et à comparer avec Ésaïe 45, verset 18. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Psaume 104, verset 30 dans la version Darby. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Le Saint-Esprit créa aussi le corps humain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel. Dans Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Petit 6. Le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que l'éternité. Dans Hébreux 9, verset 14, dans la version Darby, il est écrit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Petit 7, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que la sagesse. Ésaïe 1, verset 2, et voir 1 Corinthiens 12, verset 8. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Petit 8, le Saint-Esprit possède les attributs divins, tels que l'omnipotence. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans Romains 15, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Petit 9, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que l'omniprésence. Dans Psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Petit 10, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que l'omniscience. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Petit 11, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que la gloire. Dans 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Petit 12, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que la souveraineté. Dans 1 Corinthiens 12, versets 6 et 11, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Petit 13, le Saint-Esprit possède les attributs divins tels que la vérité. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quatrième partie, Dieu est amour. Cette affirmation est basée sur 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Dieu aime parce qu'il est amour. C'est un merveilleux caractère de Dieu, parce que cela veut dire qu'il est amour indépendamment des personnes qu'il aime, qu'il ne nous aime pas pour nos mérites ou nos efforts, qu'il ne va pas nous abandonner si nous lui lâchons la main, que chacun peut trouver du réconfort auprès de lui et qu'il ne rejette personne. Oui, Dieu trouve en lui-même les raisons d'aimer ce qui n'est pas aimable. Et ça veut dire aussi que son amour est actif, il va au-devant de nos besoins et veut nous apprendre à toujours plus compter sur lui. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, verset 6. L'amour se réjouit avec la vérité. Parfois entre nous, nous n'osons pas se dire la vérité de peur de se froisser. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. L'amour cherche le bien d'autrui et parfois ça veut dire lui ouvrir les yeux sur sa situation. L'amour dit la vérité avec douceur et tact, mais ça restera la vérité. Avec amour, Dieu nous dit dans Romains 3, versets 11 et 23, il n'y a pas de juste, non. Pas même un seul, et que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la vérité. Et dans son amour, il a donné à l'homme un moyen de s'approcher quand même de lui par Jésus. Jésus est l'illustration parfaite de l'amour. Jésus était Dieu sur la terre, et toute la divinité habitait en lui. La première manifestation de son amour était de venir ici-bas comme un homme. Ensuite, il a montré un amour sans faille quand il guérissait des malades, délivrait ceux qui étaient sous la puissance du diable et qu'il montrait toute sa compassion pour les plus misérables. Il a montré un amour profond quand il portait sa croix avant d'y être cloué. Il a montré un amour infini quand il est mort pour ceux qui le crucifiaient. Romains 5, verset 8. Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu montre de manière magnifique que son amour envers nous, en donnant son Fils unique pour nous délivrer de nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 6 à 19. En sorte que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu. Notre société, chacun y compris, peut être est malade de manque d'amour vrai. Ce n'est pas nouveau. Le problème de cette carence et de cette incompréhension a deux origines profondes. Premièrement, la dimension humaine, parce qu'on ne sait pas aimer notre prochain. Nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes, parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime aussi. L'orgueil nous aide en cela. Et puis peut-être n'avons-nous pas été aimés. Deuxièmement, la dimension divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour, car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout. C'est lié à notre incompréhension de son amour. On trouve dans ce texte le plus beau verset biblique sur l'amour de Dieu et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle un peu mystérieusement en prenant des images. Ainsi, il parle des quatre dimensions de l'infini. Comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? Il y a toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous, un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. Pourquoi Paul insiste-t-il sur cet amour de Dieu? Pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Et comme le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait le centre de sa réflexion. petit 1, la largeur de l'amour de Dieu. Voyons le contexte. Le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. Éphésiens 3, verset 6. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Comment pouvons-nous à notre tour vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? Il est normal que nous manifestions le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël comme pour ceux du monde entier, par notre prière, notre intérêt, nos dons. Il est nécessaire que nous gardions vivante cette vision de Dieu pour tous. Une vision nombrilique ne reflète pas l'amour de Dieu. Dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous gagner. Certaines idéologies, le rejet de certains, le racisme, peuvent être les nôtres. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient connus comme racistes, dans Luc 10. Jésus savait s'intéresser à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un percepteur qui trafiquait avec l'argent. L'acceptation de cette dimension de l'amour de Dieu résoudrait en grande partie le problème du racisme. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Petit 2, la longueur de l'amour de Dieu. Bien avant de poser la fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Dans Éphésiens 1, verset 4. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Déjà Dieu avait affirmé envers Israël, dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et dans Ésaïe 54, verset 8, « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Dieu est amour dans la Bible. Il nous aime depuis toujours. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Cela est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aiment, l'aimaient, même avant qu'il arrive dans la famille. Il sait que cet amour n'est pas lié à son bon comportement, mais qu'il est un amour inconditionnel. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. Certitude, nous ne sommes pas à la merci de ses sentiments fluctuants. Dieu est fidèle dans son alliance. Le malheur vient de ce que nous faisons un Dieu à notre image, donc changeant. Non, Dieu ne change pas. Qu'est-ce que cela devrait entraîner dans notre comportement? Il nous faut parler de persévérance, de volonté, être pénétré de l'engagement que nous avons pris d'aimer, sans nous relâcher. Mais cela m'aide à le vivre quand j'ai compris comment Dieu m'a aimé et continue à m'aimer malgré tout. Il est presque bon ton aujourd'hui de zapper, d'être girouette, d'aimer, de ne plus aimer, et donc de ne pas se marier officiellement par exemple, ou d'oublier d'aimer en étant indifférent. Un rappel, si nous sommes chrétiens, le fait d'aimer chacun, déjà dans l'église où nous sommes, n'est pas quelque chose de facultatif. Et ça, c'est plus difficile à admettre et à vivre. Les problèmes de culpabilité pour le chrétien viennent de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Les problèmes de relation dans une église viennent de cet oubli de la longueur de l'amour que nous devons manifester. Nous sommes appelés à regarder vers Dieu et à vivre unis à Christ. Comme Dieu nous a aimés et nous aimera toujours, nous pouvons aimer de la même manière, être pénétrés de son amour, cet amour qui ne change pas. Éphésiens 5, verset 2. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Nous avons besoin que les autres continuent à nous aimer malgré. Eux aussi ont besoin que nous les aimions, malgré leurs défauts, et cela dans la persévérance. Petit 3, la hauteur de l'amour de Dieu. C'est par la grâce, c'est-à-dire l'amour immérité de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour. Il ne nous est redevable en rien. C'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu'il offre. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté. Quant à nous, que reflétons-nous dans notre vie de tous les jours? Peut-être nous rendons-nous compte que notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. Cet amour n'est pas si libre que ça, en fait. Nous aimons celui qui nous aime ou qui est aimable, au moins. En définitive, cet amour dépend de l'autre. Nous aimons dans la facilité ou dans un esprit de justice ou par intérêt. Comme quand une poudre de lessive ne nous donne pas satisfaction et que nous en prenons une autre. Quoi de plus normal, selon notre réaction humaine, d'être indifférent à la sortie du culte vis-à-vis des personnes qui ne nous ont rien donné ou rien donné d'agréable ou qui sont indifférentes envers nous? Mais nous le savons, l'habitude de l'indifférence est terrible, plus que la puissance de l'amour. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, qui étaient réputés pour leur malhonnêteté, avaient. On le voit dans Matthieu 5, versets 46 à 48. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. Petit 4, la profondeur de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 3 à 5. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que nos corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre avec le Christ. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Et il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Parce que la liberté souveraine de Dieu n'exclut pas notre liberté et notre responsabilité. Le pardon de notre Père céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dieu a affirmé par Ésaïe dans Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Et dans Ésaïe 55, verset 7, « Que le coupable revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Mais il ne peut nous forcer, sinon ce n'est pas de l'amour. On est libre de l'accepter ou de le refuser. Mais il est un amour qui transforme. La profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, versets 6 à 7. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Et au verset 8, il s'est humilié jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, s'identifie à nous. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon que l'on puisse atteindre. Et là encore, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Qu'est-ce que la sainteté et la lumière divine? Donnez des versets bibliques. Quel est le lien et l'harmonie entre la sainteté et la lumière divine? Deuxième question. Comment pouvons-nous voir et discerner les ténèbres? Comment ne pas être aveuglé dans notre marche? Troisième question. Qu'est-ce que l'esprit et l'amour de Dieu? Donnez des versets bibliques. Quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit selon le cours? Qu'est-ce que l'amour de Dieu par rapport à l'amour du monde selon Jacques 4, verset 4? Quatrième question. Expliquez-moi les quatre dimensions de l'amour de Dieu selon le cours. Justifiez votre réponse par des versets bibliques.